Bonjour. Depuis que la canicule de l'été 2003 a porté la mort à tant de vieillards en France, il semble que les interrogations, les inquiétudes, les controverses se multiplient autour de la situation que notre société fait aux plus âgés d'entre nous, ceux que nos euphémismes un peu lâches dénomment désormais les seniors, comme le fait la carte de réduction que leur propose la SNCF. La même question a été posée, en somme, sous un éclairage différent, à propos du grand débat sur les retraites. Et ces jours-ci, ce qui s'écrit partout avec une angoisse diffuse autour de l'essor de la maladie d'Alzheimer, autour de ses conséquences sociales, psychologiques et économiques, cela est certainement à inscrire au même registre. D'où m'est venue l'idée que nous pourrions faire utilement un parallèle avec la Grèce antique, à l'occasion d'un article récent de Nadine Bernard dans la revue L'Histoire. Nadine Bernard, qui est maître de conférences à l'université de Rouen. Les clichés qui traînent dans nos têtes font souvent de cette antiquité grecque un âge d'or de la vieillesse, tant reste puissante la figure littéraire du patriarche respectable et honoré, qui, à l'instar du sage Nestor, bénéficie du prestige accumulé au fil des années. Nestor, le légendaire roi de Pylos, qui dans l'Iliade d'Homère, prodiguant ses conseils dans de longs discours, est l'emblème même d'un ordre social qui investirait le vieillard d'une supériorité morale justifiant l'exercice d'un pouvoir politique et le privilège d'une grande influence civique, bien loin de l'impétuosité, de l'inconstance, de l'impéritie qui s'attachent à la jeunesse. Ce qui n'empêche pas, au demeurant bien sûr, diverses frustrations et quelques chagrins.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime, que je te prenne par la main, pour t'emmener à Saint-Germain, pour prendre un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Allons fillette, regarde-moi, et vois les rites qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires.
Bonjour.
Bonjour.
Vous connaissiez, je suis sûr, cette version, en tout cas, quand elle était interprétée par Serge Reggiani.
Oui.
Qui est ici reprise par Sanseverino en 2002. Il suffirait de presque rien. J'ai commencé par la tonalité de la nostalgie et peut-être de la frustration du grand âge qui vient. Est-ce que c'est cette tonalité-là que l'on retrouve dans l'ensemble et en somme en Grèce, ou est-ce que cette image que nous avons de l'Antiquité grecque comme âge d'or de la vieillesse est juste?
Mais elle est en large partie ambivalente, l'image de la vieillesse dans l'Antiquité. Vous parliez tout à l'heure de Nestor, l'un des héros de l'Iliade d'Homère.
Le roi de Pylos.
Le roi de Pylos, absolument. Et si l'on prend l'exemple justement de l'Iliade, l'image des vieux est assez ambiguë. Nestor est certes un personnage respectable, respecté, il est sensé, il est lucide. C'est une force d'apaisement.
Il est bavard en même temps, un peu.
Il est bavard, mais il est surtout très atypique en ce sens qu'il est combatif et surtout combattant. Ce qui est très rare pour un homme de son âge que de participer au combat.
Un âge qui n'est pas précisé, mais enfin qui non. Il peut être octogénaire peut-être.
Oui, il est ancien, hein. C'est un vieillard.
Il manie l'épée.
Il manie l'épée et la seule chose qu'il ne fait pas comme les plus jeunes, c'est qu'il ne combat pas en combat singulier. Mais à cela près, il participe au combat avec énergie, avec endurance. Alors, certes, c'est une image positive, atypique, mais on a aussi dans Homère une image plus négative de la vieillesse. On pourrait prendre l'exemple de Priam.
Donc, Priam, le roi de Troie, le père de... Hector et de beaucoup d'autres.
Oui. Et de beaucoup d'autres, oui. Alors Priam, il donne des conseils, il est aussi un avis qu'on vient prendre, mais Priam, contrairement à Nestor, les conseils qu'il donne ne sont pas suivis.
C'est un roi non écouté.
C'est un roi non écouté, et surtout c'est un roi qui plie devant plus jeune que lui.
Il plie. Vrai que Paris, en enlevant Hélène, a causé la guerre et qu'il ne devait pas en être très content.
Absolument, il plie également devant Hector, son fils fougueux, et il est finalement spectateur du désastre qui se prépare. Donc là, l'image de Priam n'est pas celle du vieillard écouté, mais au contraire, celle du vieillard impuissant et inefficace.
Donc nous partons vraiment d'une ambivalence. Quand, à propos d'une autre civilisation, Victor Hugo, dans un poème fameux, dit « Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand », il s'agit de Boëse, on est sur un versant, il y en a un autre.
Oui, il y a un autre versant, et ce versant, il est développé largement à l'époque classique. C'est par exemple l'image qu'on donne du vieillard dans le théâtre athénien.
Surtout dans Aristophane, en tout cas dans les comédies.
Oui, surtout dans les comédies. Alors là, l'image naturellement du vieillard est écornée. Le vieillard est toujours présenté sous des traits caricaturaux. Il est crasseux, il est tordu, il est édenté, il est desséché. Il
grossier,
est sourd, grossier, fourbe, grincheux et sénile.
Méchant humeur.
Oui. Les femmes ne sont pas en reste, bien au contraire.
Elles sont même effrayantes, c'est des vieilles carcasses d'Aristophane.
Ah, de vieilles carcasses, parfois qualifiées, il y a des termes très très mordants, cercueil, pourriture.
D'affreux, des Cathy sont desséchées, elles sont édentées.
Oui, elles sont édentées, elles sont aussi lubriques.
Cherchent toujours à s'assurer la bonne grâce d'un genou dont elles se sont entichées.
Oui, bien évidemment, et ça n'est pas admissible donc que ces femmes qui sont désormais dans la vieillesse se présentent comme des coquettes et jouent le jeu de la séduction.
On rejoint Homère, que nous évoquions il y a un instant, qui parle lui déjà du seuil maudit de la vieillesse, le seuil maudit de la vieillesse.
Oui, comme Euripide, du reste, qui donne lui aussi un portrait largement négatif et sombre de la vieillesse. Alors, il est naturellement moins cocasse qu'Aristophane. Ces vieillards sont plus adoucis, plus lyriques. On sent de la compassion, parfois même de la pitié pour ces personnages. Mais l'accent est mis également sur la tristesse qu'il y a à vieillir, à être tenu pour quantité négligeable. Et c'est finalement un concert de lamentations que l'on entend dans la bouche des illustres vieillards d'Euripide.
Auparavant, d'ailleurs, vous nous citez un propos de Mimnerne de Colophon. Vous n'êtes pas parmi les poètes de l'Antiquité grecque le plus célèbre, rassurez-moi, qui est du 7e siècle avant Jésus-Christ et qui parle d'un âge haïssable et dépourvu d'honneur.
Oui. Et si l'on prend un contemporain donc de ce poète, Hésiode, lui plus connu, on se souviendra que la vieillesse est un des mots qui s'est échappé de la boîte ouverte par Pandore.
Donc on insiste plutôt sur la frustration, sur le chagrin, plutôt que sur la sérénité. On est plutôt sur le versant de la nostalgie que sur le versant de François Mauriac dans le propos que je vais vous faire entendre et qui est de novembre 1964. C'est un entretien avec Pierre de Boisdeffre.
Voyez-vous, un homme de 79 ans peut avoir la chance de n'être pas encore retombé en enfance. Mais si romancier qu'il ait pu être, il ne l'est plus. Il ne l'est plus parce que son drame, le drame de la vieillesse, qui est une sorte de face-à-face avec la mort, le rend étranger au monde des passions, qui était le monde du romancier. Et lorsque la lecture d'un livre ou une séance de cinéma le replonge dans l'histoire du couple, dans les débats entre les êtres, il éprouve tout à coup un désarroi profond et un besoin de fuir, parce que la vieillesse, que Michelet appelait un immense supplice, la vieillesse n'est supportable que dans la mesure où elle est une paix. Et il est bien sûr que lorsque le vieillard est chrétien, lorsqu'il a une vie religieuse, une vie sacramentelle, il sait où aller puiser cette paix. Et il la connaît. Et il la goûte. Mais ce bien infini qu'est cette paix est un bien fragile et menacé.
Je voudrais que nous essayions de définir la vieillesse telle qu'on pouvait la voir à l'époque de la Grèce antique, parce que c'est toujours assez subjectif qui est un vieillard et qui ne l'est pas.
C'est très très subjectif. Les sources ne concordent pas sur cet aspect et il y a des divergences entre les sources, je viens de dire, mais également entre les sexes. Si l'on prend les femmes pour commencer,
oui.
Les femmes sont considérées comme des vieilles par les médecins ou par les philosophes dès l'âge de la ménopause.
Donc très tôt à nos yeux, évidemment.
Très tôt à nos yeux, certainement. Alors cet âge de la ménopause, il est fixé parfois par des médecins du corpus hippocratique. L'un d'entre eux le fixe précisément à 42 ans.
Rappelez-nous ce que c'est que le corpus hippocratique.
Alors c'est une somme de textes écrits par des praticiens qui ont été rédigés, ces textes, entre le dernier quart du 5e siècle avant notre ère et la première moitié du 4e siècle avant notre ère.
Dans la ligne du grand Hippocrate.
Dans la ligne du grand Hippocrate, même si naturellement tous ne sont pas de la plume d'Hippocrate.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce corpus hippocratique?
Il nous dit donc, en gros, que les femmes deviennent vieilles à l'âge de la ménopause, et Aristote, qui également a beaucoup à dire sur ce sujet, pense que l'âge de la ménopause, pour une femme, est à placer autour de 40 ans.
Ah bon, il n'était pas très observateur?
Non, pas très observateur. Et si l'on en croit d'ailleurs à Aristote, les femmes au-delà de 45 ans doivent être considérées comme des vieilles. Donc vous voyez que le curseur est placé très tôt dans la vie des individus.
Mais peut-être pas tellement loin, à vrai dire, du 19e siècle. La coupure est entre Balzac, la femme de 30 ans, qui à peu près correspond à peu près à celle de 50 ou 55 ans aujourd'hui, non, on pourrait dire ça.
Oui, on pourrait dire ça, oui.
Donc c'est dans l'époque récente que la différence est vraiment installée.
Exactement. Alors pour les hommes, c'est pas tout à fait la même chose. Si l'on reste dans le domaine médical, les médecins ont une position beaucoup plus floue. Ils ne définissent jamais précisément la vieillesse, et ils observent les traits de la vieillesse, mais ils ne donnent pas un âge qui permettrait d'entrer dans la vieillesse. Alors qu'observent-ils? Bien, ils observent qu'il y a des pathologies particulières chez les vieillards.
Du corps et de l'esprit.
Du corps et de l'esprit. Alors, les pathologies, on peut les énumérer, les traiter d'ailleurs s'y emploient. La pathologie qui caractérise le plus le vieillard, pour les médecins, c'est l'extrême faiblesse. La faiblesse généralisée.
Du corps, là.
Du corps, bien évidemment. Une digestion difficile, des maladies pulmonaires, des maladies urinaires, des douleurs, de l'arthrose. Et puis, naturellement, ce qu'ils peuvent observer très facilement, la cécité, la calvitie, la canicie.
C'est quoi la canicie?
La perte des dents, et qui concerne en priorité les vieillards.
Ce n'est pas tellement différent d'aujourd'hui, sauf qu'on sait mieux soigner tout ça.
Oui.
Enfin, ce sont des critères qui peuvent nous demeurer à peu près familiers, non ?
Oui, oui, ce sont naturellement des critères familiers, mais des critères qui ne sont pas placés précisément sur une courbe d'âge. Hein. On ne définit jamais l'âge d'entrée dans la vieillesse. Ce qu'on observe également chez les médecins, c'est que le vieillissement est le résultat du refroidissement du corps. Les médecins de l'Antiquité pensaient que la vieillesse était l'ultime étape du processus de refroidissement progressif du corps humain. Le maximum de chaleur interne du corps humain étant naturellement atteint à la naissance, et ils pensaient donc que le corps allait progressivement en se refroidissant. Et la perte de la chaleur interne coïncide naturellement avec la mort.
Tout ça sans soit tout froid.
Voilà, la nature du vieillard, c'est par essence la froideur. Alors il y a des divergences entre les médecins, froideur sèche, froideur humide.
Est-ce qu'on trouve une différence dans ce domaine entre Galien et Hippocrate, qui sont les deux personnages emblématiques de la médecine antique?
Oui, il y a une différence en ce sens que avec Galien, on s'intéresse aux vieillards et on s'intéresse à la gériatrie. On s'intéresse aussi à la gérontologie et l'art du médecin mis en œuvre par Galien, donc au deuxième siècle de notre ère, c'est un art de prolonger la vie. On essaie d'atteindre à la longévité. Les médecins de l'époque hippocratique, au 5e ou 4e siècle, ne se préoccupent pas
avant
Jésus-Christ, ne se préoccupent pas de la longévité des individus.
Ils observent sans agir, c'est ça la différence?
Ils tentent d'agir, mais en tout cas leur objectif n'est pas de prolonger la vie.
On a le sentiment, en même temps, que cette définition de la vieillesse est à la fois biologique et sociale.
C'est-à-dire
que c'est un passage. Et on y a au fond trois âges d'existence masculine: les jeunes gens, les hommes mûrs et les vieux. Mais la frontière entre hommes mûrs et vieux est peut-être variable. Par exemple, si on prend le critère de la capacité de se battre, d'être soldat.
Là, le passage est marqué. On a des textes...
À Athènes, par exemple.
À Athènes, précisément. Des textes qui nous disent que à partir de la 50e année, les hommes sont mobilisables, mais ils sont affectés à la défense du territoire.
Pas très différent de ce qui se passait dans la France du 19e siècle.
Absolument.
Les très jeunes et les plus vieux étaient en effet devenus des gardes territoriaux.
Voilà, ils assurent la patrouille et protègent les frontières. En revanche, à partir de la 59e année, les hommes ne sont plus mobilisables.
C'est à peu près ce qui se passera aujourd'hui, même plus tard.
C'est une retraite militaire. Les seuls qui échappent à cette règle sont les commandants, qui peuvent être élus jusqu'à un âge très avancé. Nous avons des exemples de stratèges ayant dépassé les 80 ans, Phocion.
Phocion, oui, c'est un Athénien, Phocion.
L'Athénien, voilà.
Au 4e siècle.
4e siècle, il a été élu stratège à 83 ou 84 ans.
Ça renvoie plutôt aux vieux maréchaux qui ont été victorieux, je pense, à notre 20e siècle, et que du coup on prolonge bien au-delà de l'âge ordinaire, non sans péril parfois, sur leur capacité stratégique ou tactique, leur adaptabilité à des champs de bataille nouveaux.
Là, c'est l'expérience, manifestement, qui compte et qui est prise en considération pour ces personnels dirigeants.
Pour les philosophes, on peut dire qu'en gros, la phase d'acmé des hommes s'achève vers 55 ans.
Oui, la phase d'acmé se situe entre 30 et 50 ans. Cela dépend un peu si l'on parle de l'acmé du corps ou de l'acmé de l'âme. Aristote, par exemple, place l'acmé du corps entre 30 et 35 ans, mais celle de l'âme est beaucoup plus tardive, elle n'intervient qu'à 49 ans.
Donc il y a un discord entre le corps et l'âme.
Oui.
Avec quel effet ?
Alors, avec quel effet? Bien, c'est que le corps vieillit. Aristote pense qu'il y a une vieillesse du corps comme une vieillesse de l'esprit. Et donc, au-delà de 50 ans, il ne pense pas que les hommes sont prédisposés à assumer des fonctions politiques. En tout cas, il ne pense pas qu'ils sont plus prédisposés que d'autres à assumer des fonctions politiques, ce qui n'est pas le cas de Platon.
Alors, nous allons y venir à la politique, mais auparavant, je vais me donner le plaisir de vous faire entendre un chanteur célèbre qui, octogénaire, vient nous dire que c'est un propos évidemment familier, presque banal, mais il le dit assez bien, qu'on a que l'âge de ses artères. Écoutez, Maurice Chevalier, c'est son dernier concert au Théâtre des Champs-Élysées, le 20 octobre 1968, enregistré d'ailleurs par le Nagra bien disposé du jeune François Jouffa.
Maintenant, mesdames, messieurs, je vais vous faire une petite confidence. On est jeune, toujours jeune, le plus jeune des plus jeunes. Cela tient à l'esprit qu'on a. On aime la vie ou on ne l'aime pas. Il y a des jeunes, jamais jeunes, d'anciens jeunes, toujours jeunes, ceux qui passent leur vie en aimant, simplement, ceux-là ont toujours 20 ans. Dans la salle ce soir, c'est bon de revoir des anciens amis venus pour me voir, des jeunes aussi, des filles très jolies. Tout cela m'inspire à venir répéter ceci, c'est qu'on est jeune, toujours jeune, le plus jeune des plus jeunes. Cela tient à l'esprit qu'on a. On aime la vie ou on ne l'aime pas. Il y a des jeunes, jamais jeunes, d'anciens jeunes, toujours jeunes, ceux qui passent leur vie en aimant, simplement, ceux-là ont toujours 20 ans. Parce que je vais vous dire, on est jeune, on est toujours jeune, on est le plus jeune des plus jeunes. Eh ben, cela tient à l'esprit qu'on a. On aime la vie ou on ne l'aime pas. Il y a des jeunes, jamais jeunes, d'anciens jeunes, toujours jeunes, ceux qui passent leur vie en aimant, simplement, ceux-là ont toujours 20 ans. Et je nous en souhaite autant naturellement blanc.
Maurice Chevalier, 1968, Nadine Bernard, la philosophie est un peu courte, mais en somme sympathique. Est-ce qu'on aurait pu chanter la même chanson en grec au 2e siècle avant Jésus-Christ, au 3e siècle avant Jésus-Christ?
Je ne crois pas, parce qu'il semble qu'en Grèce, à l'époque classique, on ne pensait pas que la jeunesse pouvait perdurer. On était jeune à 20 ans, on ne l'était plus à 50 ou 70 ans. C'est une idée bien étrangère aux Grecs que de vouloir porter la jeunesse jusqu'à un âge très avancé.
La subjectivité ne pouvait pas contredire la réalité physiologique, en somme.
Absolument, la physiologie.
Vous pourriez vous donner des indications d'ordre démographique? Quand on se promenait dans les rues, il y avait beaucoup de vieillards ou de vieilles dames?
On ne sait pas, il y en avait certainement. Dans quelle proportion, c'est impossible de le dire. La démographie historique dans l'Antiquité est loin d'être une science exacte. Pour vous donner des chiffres un peu précis, pour les hommes adultes, hein, décédés, on a tendance à penser que l'âge moyen est quelque part entre 45 et 50 ans. Et pour les femmes, selon les études, il y a de grandes variantes. Certaines études concluent un âge moyen adulte au décès 36 ans, autour de 36 ans. Et d'autres études plus récentes, toujours à partir de l'étude des ossements, hein, à 47 ans.
Ça tient compte de la mortalité infantile?
Non, ça ne tient pas compte de la mortalité infantile.
Donc,
l'espérance de vie à la naissance, là aussi, est inconnue. Il y a des tables de mortalité qui sont des projections, qui sont faites à partir de sources de l'époque moderne ou des débuts de l'époque contemporaine. Et là aussi, il y a des fourchettes qui varient assez grandement. On pourrait dire que dans l'Antiquité classique, l'espérance de vie à la naissance, selon les spécialistes, pourrait varier entre 21, 22 ans et 26, 27 ans.
Du même coup, on a tendance à concentrer l'attention sur des cas individuels. Et les cas individuels de longévité sont évidemment nombreux et souvent célèbres. Vous évoquez cette prêtresse d'Athéna au 4e siècle avant Jésus-Christ, qui est restée en charge 64 années durant, donc elle ne devait pas être toute jeune.
Non, elle était nécessairement octogénaire à sa disparition. Il y a d'autres exemples de femmes âgées. Échine, l'orateur, nous dit à un moment dans un de ses discours que sa mère est toujours vivante et elle a manifestement plus de 70 ans à ce moment-là. On a aussi parfois, c'est beaucoup plus rare, sur des stèles funéraires, mention d'une longévité exceptionnelle. Une stèle du IVe siècle nous fait connaître une femme qui est âgée de plus de 90 ans.
C'est presque Jeanne Calment.
Oui, c'est presque Jeanne Calment, peut-être pour l'époque, on ne sait pas, mais c'est un grand âge, évidemment. Et puis, bien évidemment, les personnages illustres.
Alors, certains... des exemples.
Alors, des exemples, ils sont nombreux.
Le grand rival orateur de d'Échine, bien sûr, c'est Démosthène. Il est mort à quel âge?
Il est mort au-delà de 60 ans, autour de 65 ans.
Périclès.
Autour de 65 ans également, 64 ou 65 ans.
C'est une peste, là, probablement le typhus.
Un typhus, ou une épidémie, en tout cas. Si on prend l'exemple des grands tragédiens, les trois grands tragédiens d'Athènes, Sophocle est mort à 90 ans, Échille autour de 70 ans, Euripide à 78 ans. Donc des âges respectables.
Ah oui, ça conservait donc en somme des oui. Œdipe à Colonne de Sophocle, il avait 89 ans quand il l'écrit. D'ailleurs, je vous interromps un instant, juste pour le plaisir de vous citer le dernier carnet de notes du général de Gaulle, où en 1967, il observait, en 67, il a par conséquent lui-même 77 ans, il vient d'être réélu à la présidence de la République, et il note, à 89 ans, Sophocle écrit Œdipe à Colonne. À 80 ans, Goethe écrit son grand Faust. À 97 ans, Titien peint la descente de la croix. À 85 ans, Verdi compose son grandiose Te Deum. Monet, Kant, Voltaire, Chateaubriand, Hugo, Tolstoï, Shaw, Mauriac, octogénaire, poursuivent une œuvre admirable. Et puis parce que De Gaulle ne se laisse pas trop entraîner par cette citation, il ajoute avec un peu de recul et en souriant, « Ce sont des exemples qu'on se cite à soi-même pour se donner le change sur son âge. » Il reste Nadine Bernard qui pouvait dans l'Antiquité trouver des cas tout à fait frappants. Zénon, par exemple, le philosophe du Portique, serait mort à l'approche de sa 98e année. Mm-hmm. C'est confirmé ou c'est une légende?
Non, il semble que ce soit une source valable. Diogène, le cynique, n'avait pas moins de 90 ans à sa disparition.
Il restait très vieux dans son tonneau.
Oui, Platon lui-même est mort à 81 ans. Et il a écrit les lois, ou rédigé les lois à la fin de sa vie.
On aurait pu le rajouter à la liste de Gaulle.
Oui, il aurait fort bien pu le rajouter.
Et Isocrate.
Alors, il tient des records de longévité. Il est né en 436, il est mort en 338, ce qui lui fait donc 98 ans. Et là aussi, il a écrit de nombreux discours dans les dernières années de son existence. Mais ce ne sont pas seulement les intellectuels qui vivent vieux. Les grands soldats, les grands commandants militaires peuvent aussi être pris à témoin. Si l'on prend le cas des diadoques, c'est-à-dire les généraux d'Alexandre, ceux qui se sont partagés son empire, eh bien Antigone est mort à 81 ans, Ptolémée à 85 ans et Séleucos à plus de 75 ans. Donc ce sont des soldats qui se sont battus et qui ont trouvé parfois la mort sur le champ de bataille. C'est le cas d'Antigone à 81 ans.
Venons-en maintenant à la place des anciens dans la cité. Le regard est très, très variable. Vous nous montrez bien, par exemple, que certains, comme Platon, soulignent les aspects positifs de la vieillesse et en particulier inscrivent la sagesse qui peut bien sûr profiter à la cité. Ça, c'est une grande affaire. On peut souvent distinguer les civilisations, les analyser en tenant compte de la place qu'ils font aux vieillards. Est-ce qu'ils savent utiliser, en effet, leur savoir, les installer dans un sénat, les écouter? Beaucoup de civilisations primitives savent le faire. Au contraire, est-ce qu'on les écarte rapidement pour ne pas être gêné par leur radotage?
Alors, Platon, dans sa cité idéale, utilise largement les seniors, comme nous le dirions aujourd'hui. Les gardiens, donc philosophes de sa cité idéale, ont au minimum de 50 ans. Et la plupart des magistrats sont recrutés au-delà de 50 ans. Les prêtres, les exégètes dans cette cité idéale sont recrutés, eux, au-delà de 60 ans. Cela dit, il faut noter qu'il y a tout de même des limites d'âge qui sont fixées par Platon.
Ah, déjà, lesquelles?
Alors, les gardiens à 70 ans et les contrôleurs des comptes, il est très précis sur ce point, à 75 ans. Donc il y a tout de même l'idée d'une retraite, certes tardive,
donc,
mais
Philippe
d'une
Séguin,
retraite tout de même.
Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, pourrait travailler jusqu'à 75 ans aujourd'hui.
Oui.
Plus que ce qu'il lui est promis.
Oui, plus qu'il lui est promis, très vraisemblablement.
On rejoint à peu près 70 ans l'âge de la retraite des professeurs au Collège de France.
Oui, voilà, c'est l'âge en tout cas que donne Platon. Donc il n'y a pas non plus d'idée chez Platon de conserver dans leur charge des vieillards à vie. Hein, il y a une limite d'âge, une retraite qui est prévue dans les lois.
Mais pas les sénateurs à vie des débuts de la Troisième
République. La seule charge perpétuelle, me semble-t-il, est celle des exégètes.
C'est quoi les exégètes?
Les exégètes sont les interprètes du droit sacré. Et ceux-ci peuvent donc l'être jusqu'à leur mort.
Comme les membres de la Cour suprême aujourd'hui aux États-Unis, en somme.
Oui.
Dont on dit, vous savez, qu'il ne démissionne jamais et qu'il meurt rarement.
Oui, mais il n'interprète pas un droit sacré.
C'est un peu dans la ligne de Platon, qui d'ailleurs était bien connu des législateurs et des conventionnels des États-Unis au moment où ils ont fait leur texte fondateur.
Il faut quand même ajouter que s'il tient compte donc de l'expérience et donc de la sagesse qui serait censé l'accompagner. Il ne faut pas oublier non plus que Platon, s'il donne un titre au commandement aux plus âgés, les recrute aussi dans une élite. Hein. Donc l'idée de la qualité de recruter non seulement les plus âgés mais les meilleurs ne doit pas être dissociée. Hein. Ce n'est pas le privilège de l'âge qui donne titre au commandement, c'est l'âge et la qualité.
Bon, alors voilà le dessin de Platon dans sa République idéale. Dans la pratique, Nadine Bernard, comment étaient traités les vieillards au cœur de la cité?
Alors, il y a des différences entre les cités. Si l'on prend le cas peut-être le plus connu, celui de Sparte, il y avait au pouvoir, dans une institution qui s'appelle la Gerousia, le conseil.
Conseil des vieux.
Le conseil des anciens.
Les anciens, c'est plus gentil.
Les gérontes, 28 gérontes, 28 hommes, qui étaient donc élus par acclamation à partir de la 60e année et qui restaient, eux, au pouvoir à vie. Donc, on a là l'ébauche d'une gérontocratie compensée, il est vrai, par la présence d'autres magistrats, notamment par les efforts, 5 hommes qui sont âgés de plus de 30 ans, mais qui n'ont pas nécessairement, eux, plus de 60 ans. Donc, on a là l'exemple d'une utilisation de la sagesse, de l'expérience, voire même de la prudence qu'on associe à la vieillesse.
Une réflexion en même temps sur le dialogue fécond des générations.
Oui.
Les trentenaires d'un côté, sexagénaires de l'autre.
Oui, c'est vrai. Il y a d'autres cités qui sont connues pour faire une large place aux anciens, des cités de Crète notamment, c'est Aristote là qui nous les présente, des cités qui disposent également d'un conseil formé de gérontes, c'est-à-dire d'hommes de plus de 60 ans. Aristote, du reste, n'est pas en accord avec ce type d'institution.
Que dit-il ?
Et il pense qu'il y a une vieillesse du corps comme une vieillesse de l'esprit. Et il pense donc que les hommes d'âge devraient laisser la place à de plus jeunes qu'eux.
Une vieillesse de l'esprit comme une vieillesse du corps.
Oui, exactement. À Athènes, il n'y a pas de limite d'âge à l'exercice des fonctions politiques. On l'a vu tout à l'heure, les soldats citoyens ne combattent plus à partir de 60 ans, mais les citoyens continuent d'exercer leurs prérogatives de citoyens. Et il y a même une charge particulière qui s'ouvre à eux. À la 60e année, c'est la charge d'arbitre public. C'est une charge donc qu'ils doivent assumer, c'est une obligation, durant un an. Et le propos de ces hommes, c'est de régler les différents mineurs qui peuvent surgir entre les citoyens. Comme cette charge est obligatoire, on pense d'ailleurs que s'ils ne peuvent s'en dégager, c'est peut-être aussi parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça à pouvoir l'exercer.
Oui, comme beaucoup sont morts, effectivement, la sélection, la compétition
n'a plus lieu d'être.
Est moindre. Mais ça renvoie à cette fonction qui a été créée en France récemment, des juges de proximité qui viennent soulager les juges professionnels de leurs tâches dont ils sont parfois accablés.
Oui, c'est vrai. Et on observe en général qu'il y a quand même une tendance dans les cités grecques, donc mis à part Sparte, il y a une tendance à ne pas limiter un âge d'exercice, de ne pas donner un seuil d'exercice aux charges politiques. Il y a peu de mentions de magistrature, par exemple, qui s'attachent à un segment démographique particulier. On a des lois, on a une loi de Beroia, c'est une cité de Macédoine, qui dit par exemple qu'un magistrat, le gymnasiarque, celui qui est en charge du gymnase, doit être recruté à l'âge de 30 ans et doit l'être avant 60 ans.
Parce que peut-être on lui demandait des exercices physiques plus marqué que...
C'est possible, mais sa charge est quand même une charge de direction, une charge de financement. En tout cas, là, il y a une limite d'âge. On connaît aussi un exemple à Delphes de magistrats qui sont les citonailles, qui sont chargés du grain, de l'achat, de la distribution du grain, qui doivent aussi être recrutés à 30 ans et qui doivent l'être avant 60 ans. Mais ces mentions sont assez rares. Donc, s'il y a des seuils d'accès chez les Grecs pour entrer dans la citoyenneté, pour exercer une magistrature, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de seuil de sortie. C'est assez rare.
C'est là qu'on revient à l'âge auquel des gens comme Périclès, Nicias ou Démosthène ont pu exercer leurs fonctions. Sexagénaire.
Sexagénaire, oui, oui. Sexagénaire et parfois opposé précisément à de plus jeunes qu'eux. Il y a un conflit de génération à l'époque de la guerre du Péloponnèse entre Anicias, par exemple, qui représente les plus âgés, les anciens, et un Alcibiade qui a une trentaine d'années à ce moment-là et qui représente la foule de la jeunesse.
On revient au débat souvent agité au XIXe siècle, quand par exemple Balzac écrivait dans le cabinet des Antiques « C'est un grand malheur qui afflige un parti que d'être représenté par des vieillards quand déjà ses idées sont taxées de vieillesse. » Pour ce qui touche à l'intérêt de ne pas mettre les vieillards à la retraite et de les spécialiser en quelque sorte dans ce qu'ils peuvent faire toujours, et par exemple l'enseignement, un bref extrait, Nadine Bernard, une brève archive pour entendre, c'est toujours un bonheur, Gaston Bachelard à la fin de sa vie, à la fin des années 50.
Je crois que si la vieillesse a des qualités, a une qualité, c'est de conserver les qualités qu'il a eues toute sa vie.
Donc, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il est possible de garder à votre âge les mêmes qualités que vous aviez à 20 ans?
Les qualités, est-ce que j'ai eu des qualités? À 20 ans, j'étais un soldat au 12e dragon. Je suis tout de même bien un peu embarrassé de remonter à cheval. Est-ce que j'étais serein? Je ne sais pas.
Mais maintenant, en ce moment?
Non, je suis tranquille.
Vous êtes tranquille?
Je suis tranquille. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand j'ai été mis à la retraite, à l'âge de 71 ans, après avoir fait une longue carrière dans l'enseignement, j'ai eu une certaine mélancolie, parce que j'aimais beaucoup, beaucoup enseigner. Mais enfin, il me restait la possibilité de travailler et ma vie n'a pas été changée de ce fait.
Bachelard nous permet de faire la transition entre vie publique, dont nous venons de parler, Nadine Bernard, et puis la vie privée. Comment sont traités les vieillards dans les familles, notamment? Est-ce que on les met au bout de la table avec une cuillère en bois, ou bien est-ce qu'on les honore au centre de la vie familiale?
Cela dépend des milieux, naturellement, et des statuts sociaux. Il ne faut pas oublier que l'Antiquité est une société esclavagiste, et les esclaves sont certainement amenés à travailler très largement à l'âge où ils sont déjà de vieux ou de vieilles femmes.
Il y a un texte de Xénophon que vous citez qui attribue à Socrate des mots très sévères à l'encontre des mauvais maîtres qui traitent mal leurs esclaves lorsqu'ils sont devenus vieux et improductifs.
Oui, c'est cela. On peut imaginer qu'il y a parfois des maîtres qui étaient tentés de se débarrasser d'un esclave devenu inutile, non seulement inutile, mais une bouche supplémentaire à nourrir. On peut aussi imaginer qu'on les a reconvertis dans des métiers plus adaptés à leur âge. Il y a des fonctions qui, dans le théâtre, sont souvent occupées par des esclaves, et on peut imaginer que c'est un écho à une certaine réalité, la fonction de messagère pour une femme, la fonction de portier ou de portière dans une maison.
Messagère, c'est celle qui sert un peu d'entremetteuse éventuellement, comme on trouve dans le théâtre classique.
Éventuellement, comme on trouve dans le théâtre classique, mais y compris aussi dans la réalité. Et on peut imaginer que ces vieux ou ces vieilles personnes sont utilisées et conservées dans les maisons. Mais nous n'avons pas de source.
Il y a tout de même une anecdote qui est développée dans un plaidoyer de Démosthène et qui permet de décrire une conduite qui est là et est édifiante.
Oui, oui, une conduite modèle, celui d'un citoyen qui prend en charge sa vieille nourrice, qui a été affranchie, qui est devenue veuve, qui l'installe dans sa maison et qui lui donne les moyens de subvenir à ses besoins. Donc là, c'est une conduite naturellement très idéale. On ne sait pas si, dans la réalité, tous les citoyens prenaient en charge ainsi leur nourrice. Cela dit, les stèles funéraires montrent que les vieilles nourrices sont souvent honorées et qu'il y a sans doute de l'intérêt pour elle et sans doute, on peut imaginer, une aide provenant de la famille, des enfants qu'elles ont élevés.
Ça renvoie au meilleur cas des États-Unis dans le Sud au moment de la guerre de sécession. La vieille nourrice noire, enfin, on est en plein dans Autant t'en apporte le vin, non?
Oui, oui, oui. Mais ça, c'est une image qui n'est pas nécessairement celle que l'on peut avoir en Grèce antique. Hein. Les esclaves ne sont pas toujours vus sous un jour aussi favorable.
Donc il faut faire le départ, bien sûr, entre ceux qui sont favorisés et ceux qui ne le sont pas. Alors qu'en est-il de ce qu'on doit mieux connaître à cause de la nature même des sources, des vieillards qui appartiennent aux familles nanties?
Alors là, ceux-ci profitent sans doute d'une belle retraite en compagnie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. On imagine que lorsqu'ils passent la main, lorsqu'ils cèdent leur fortune à leur fils, eh bien on imagine qu'ils sont recueillis dans la maison de leurs enfants. Et si on prend à témoin le corpus des textes de Démosthène, on a, je crois, au moins 10 exemples de veuves qui sont recueillies par leurs fils
dans les plaidoyers de
Démosthène. Donc c'est sans doute une attitude assez générale que de prendre en charge la vieillesse de ses parents.
On ne dit pas ce qu'éprouve l'épouse du fils dans ce cas-là.
On le dit ou on le laisse entendre dans le théâtre. C'est un topos du théâtre.
Comique,
bien évidemment, que d'opposer la belle-mère et la bru.
Tension qui... Et se retrouve comme vis comica.
Qui est un ressort du comique, mais qui ne trouve pas nécessairement d'écho dans la réalité.
Il y a à la fois l'impératif de l'assistance matérielle et du respect.
Oui.
Attitude concrète et attitude morale.
Oui, morale, une attitude morale qui procède aussi de la religion et du respect que l'on doit à ses ascendants. Alors, il y a dans de nombreuses cités tout un arsenal législatif qui impose aux enfants de prendre en charge la vieillesse des parents. Il y a une obligation, ne serait-ce qu'à Athènes, de nourrir ses ascendants. Alors, les ascendants en question, c'est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le bisaïeul et la bisaïeule, s'ils sont encore en vie.
Donc, arrière-grands-parents. Donc on voit
les arrière-grands-parents, donc le signe tout de même qu'il en existe, hein, et qu'il y a au moins parfois 3 ou 4 générations qui peuvent cohabiter dans une cité.
Obligation éthique, obligation morale, c'est le lieu peut-être de rappeler que à l'époque de la Convention, en 1793, on avait prévu qu'on pourrait acquérir la nationalité française si on veillait au destin d'un enfant ou si on soutenait un vieillard.
Là, c'est une obligation, je vous le dis, qui procède à la fois de la morale et de la religion, hein, parce que cette obligation de nourrir ses ascendants va de pair avec l'obligation de leur donner une sépulture et de procéder au rite, au tombeau. Alors, on imagine que cette loi est assez ancienne. Certains orateurs la rapportent à Solon, qui est un législateur du début du VIe siècle avant notre ère.
La sagesse incarnée.
Oui,
dans
la
mythologie des Grecs eux-mêmes.
Exactement. Cette loi qui fait obligation donc de prendre en charge ses parents, grands-parents, et bisaïeux, va de pair aussi avec une loi qui interdit de les maltraiter. Les sévices physiques aux parents sont punis sévèrement, nous dit Échine dans un de ses discours, par la perte de la citoyenneté, par l'atimie.
Ça veut dire que ça devait arriver.
Ça veut dire que ça devait arriver, et là aussi c'est un trait souvent forcé dans les discours des orateurs, mais certains adversaires font reproche à leur adversaire justement de ne pas traiter correctement sa mère ou son père. Donc c'est un argument qu'on utilise assez fréquemment dans les discours, hein, celui de la suspicion du mauvais traitement aux parents, aux grands-parents, de l'abandon des parents ou des grands-parents.
Il y a toute une réflexion qui se traduit par des dispositions législatives sur les relations entre les générations.
Oui,
c'est toujours très intéressant à observer quand on considère la spécificité d'une civilisation donnée. Comment les jeunes gens traitent les vieilles gens avant qu'ils le deviennent eux-mêmes?
À peine sortis du berceau, nous sommes allés faire un saut au boulevard du temps qui passe, en scandant notre ça ira contre les vieux, les mous, les gras, confinés dans leurs idées basses. On nous a vus, c'était hier, qui descendions jeunes et fiers dans une folle sarabande,
en allumant des feux de joie, en alarmant les gros bourgeois, en piétinant leurs plates-bandes. Jurant de tout remettre à neuf, de refaire 89, de reprendre un peu la Bastille. Nous avons embrassé Coulu, leur femme qu'ils ne touchaient plus, nous avons fécondé leur fille. Dans la mare de leur canard, nous avons lancé goguenard, force pavée, quelle tempête. Nous n'avons rien laissé debout, flanquant leur credo, leur tabou, et leur dieu cul par-dessus tête. Quand sonna le cessez-le-feu, l'un de nous perdait ses cheveux, et l'autre avait les tempes grises. Nous avons constaté soudain que l'été de la Saint-Martin n'est pas loin du temps des cerises. Alors, ralentissant le pas, on fit la route à la papa, garbraillant contre les ancêtres. La troupe fraîche des cadets au carrefour nous attendait pour nous envoyer à Bicêtre. Tous ces gâteux, ces avachis, ce pauvre sépulcre blanchi, chancelant dans leur carapace. On les a vus, c'était hier, qui descendaient jeunes et fiers, le boulevard du temps qui passe.
Georges Brassens, le boulevard du temps qui passe, 1976. Alors Nadine Bernard, on aurait pu chanter ça en grec. On sent une tension forte entre les générations. On sent la tentation du mépris d'un côté ou de l'autre. Les textes nous renseignent.
Oui, elle existe parfois cette tentation du conflit entre les générations. Elle existe dans la vie politique. Lorsque les jeunes prétendent, non pas renverser les vieux, mais prétendent décider en lieu et place des vieux.
Vous citiez le cas d'Alcibiade, qui est assez intéressant. Rappelez-nous le scandale qu'a provoqué l'irruption sur la scène politique de ce jeune homme de talent et de prétention.
Oui, c'est un jeune homme qui a fait ses armes à la fin du 5e siècle avant notre ère, qui est issu d'une grande famille athénienne, qui est le petit-neveu de Périclès, et qui représente au temps de la guerre du Péloponnèse, le parti belliciste, ceux qui souhaitent en découdre avec Sparte, contre le parti plus tranquille représenté par Nicias, qui est d'ailleurs le signataire d'une paix qui a été signée après les premières 10 années de guerre.
On sent très fort un conflit de génération.
Oui, il y a un véritable conflit de génération entre la fougue de la jeunesse symbolisée par Alcibiade, la prudence, la sagesse incarnée par Nicias.
Venons-en maintenant, si vous voulez bien, il nous reste quelques instants, quelques minutes, à la question du soutien public aux vieillards. Est-ce qu'il y a une politique de l'aide sociale, une politique des retraites dans ces cités grecques?
Alors, il n'y a pas naturellement dans les cités grecques de régulation sociale telle qu'on l'entend aujourd'hui.
Mais
il y a parfois des cas assez rares, mais des cas tout de même d'aide sociale à l'encontre des personnes âgées.
À l'avantage, exactement,
des personnes âgées. Alors, on a un exemple très concret, c'est une cité insulaire du nord de l'Égée, la cité de Thasos, qui accorde des fonds publics aux enfants et aux parents des citoyens morts au combat. De même qu'Athènes, Athènes prend en charge les pupilles de la nation, c'est-à-dire les enfants des soldats tombés au combat. Mais contrairement à ce qui se passe à Thasos, à Athènes, la cité offre toute sa considération, tout son support aux parents de ces soldats décédés, mais ne semble pas leur offrir une aide sonnante et trébuchante.
Même si ceux-ci auraient pu attendre de leurs enfants, s'ils avaient été vivants, cet appui est assez généralisé.
Exactement, puisqu'à défaut d'une aide publique, ce sont les familles qui sont en charge de leurs personnes âgées. Alors, on peut imaginer que pour les personnes âgées dans le besoin, dans la nécessité, on peut imaginer aussi tout de même qu'ils profitent de la bienfaisance publique de riches citoyens. On connaît l'un d'entre eux au 5e siècle, Simon, qui fut dans son temps un adversaire de Périclès. Et Plutarque nous dit que Simon avait l'habitude d'offrir de somptueux banquets aux hommes de son dème. c'est-à-dire de sa circonscription politique. Donc on peut imaginer que les vieillards dans le besoin ont pu fréquenter ces hommes qui ont servi un peu de patron et qui les auront aidés.
Les très riches citoyens, en somme, subissent une sorte de pression civique ou morale pour faire bénéficier de leur mécénat.
Exactement, une mission de bienfaisance. On peut aussi imaginer, et c'est ce que fait du reste Aristophane dans une de ses pièces, Les Guêpes, on peut imaginer que les vieillards citoyens aient pu aussi se rendre au tribunal, puisqu'ils y touchaient un mistos, c'est-à-dire une rémunération pour prix de leur participation. Et on peut imaginer qu'avec cette rémunération, ils ont pu là aussi assumer leur subsistance.
Qu'un survivre,
exactement.
C'est toute la question qu'on retrouve pour finir de l'âge de la retraite qui nous préoccupe tant dans nos civilisations contemporaines. Faut-il le couperet d'un moment, 60 ans, 65 ans, ou faut-il en biseau assurer une sortie du monde du travail qui rendrait plus heureux que cette brutalité de l'arrêt de toute chose? Et écoutez pour finir ce propos d'Alfred Sauvy, le grand démographe contemporain important de la seconde moitié du XXe siècle, et qui s'exprime le 24 octobre 1948 à la Tribune de Paris. Pour une fois, je vous économiserai le générique désormais célèbre pour nous.
Moi, permettez, je crois que...
C'est Alfred Sauvy qui parle.
La question ne devrait pas être mise uniquement sur le point de vue de l'âge d'après l'extrait de naissance. Les individus qui arrivent aux âges élevés de 60 ou 65 ans sont très différents en vigueur physique ou intellectuelle. Par conséquent, il semble illogique d'obliger, parce qu'on a souvent obligé, des travailleurs en pleine force de l'âge à se retirer de la société en leur donnant une retraite qui, personne ne me contestera, est très insuffisante. De sorte que c'est l'intérêt même du travailleur que nous défendons en cherchant à lui avoir une vie possible, acceptable pendant la période où il peut encore travailler, et ensuite une retraite plus élevée du fait qu'il y aura moins de retraites à verser. Ce que nous voudrions, c'est que ces travailleurs soient employés scientifiquement et rationnellement. Qu'au lieu de faire un travail pour lequel ils ne sont pas faits, ou bien qu'ils font, qui est très pénible parce qu'il ne correspond plus à leur faculté physique, nous voudrions qu'on leur assure un travail conforme à leurs possibilités.
Mais je ne vous apprendrai rien, messieurs, en vous disant tout de même qu'au point de vue alimentation, déjà nos vieillards sont sous-alimentés, et leur demander encore, après 65 ans, un travail, comme nous voyons encore actuellement des hommes de 70, 75 ans dans les usines, je vous avoue personnellement, en tant que représentant de l'association des vieux travailleurs, j'en suis complètement navré.
Oui, Nadine Bernard, l'intervention finale, c'est celle précisément de ce représentant de l'association des vieux travailleurs. On voit bien la différence de regard suivant le milieu social, suivant les catégories dont il s'agit. Vous avez le sentiment qu'on avait réussi chez les Grecs cette sortie progressive du monde du travail?
Certainement pour ceux qui disposaient de revenus, certainement pas pour ceux qui ne disposaient même pas de leur liberté.
Donc l'inégalité que nous connaissons aujourd'hui était naturellement et déjà largement présente.
Oui, beaucoup plus accentuée, semble-t-il.
Comment auriez-vous envie de conclure? Je sais que vous avez dans votre corbillon une intéressante maxime due à Delphes.
Oui, une des maximes de Delphes qui pourrait résumer notre propos d'aujourd'hui. Je vous la livre ainsi.
S'il vous plaît.
Enfant, sois sage, jeune homme, tempérant, adulte, juste, vieillard, de bons conseils.
Merci Nadine Bernard. Je précise quelle est la référence de l'article que vous avez donné à l'Histoire il y a peu, en juin 2005. Être vieux à Athènes, un sort peu enviable. C'est un article qui est illustré par un certain nombre de reproductions qui montrent que l'image aussi peut nous renseigner.
Et évidemment, l'image nous aide et elle évolue du reste, cette image des vieillards. Sur les stèles funéraires, à l'époque classique, par exemple, on enterre les grands-mères qu'on représente comme des jeunes femmes, alors qu'à l'époque hellénistique, donc dès la fin du IVe siècle et par la suite, on a tendance à proposer des images sur les stèles funéraires beaucoup plus réalistes, avec des visages fripés et des chairs relâchées, chose qui est proprement impossible. possible à l'époque classique. En revanche, à l'époque classique, sur la céramique, la personnification de la vieillesse, Guéras, le vieillard, lui, est représenté sous des traits très crus, très caricaturaux, et aucune concession n'est faite à sa décrépitude physique.
Oui, j'ai sous les yeux des représentations qui viennent du musée archéologique de Bari, qui remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui sont très proches du théâtre d'Aristophane. On voit des vieillards vraiment grossiers, de méchante humeur, et une scène de théâtre qui est très impressionnante dans la capacité de caricature. Oui. C'est pas un monde joyeux, c'est
non,
pas un monde
embelli. C'est presque un masque de théâtre qu'on nous donne à voir.
Je signale aussi un article de vous, Nadine Bernard, « Les femmes âgées au sein de la famille et dans la cité classique », qui appartient à un recueil d'actes d'un colloque intitulé « L'ancienneté chez les anciens ». Le tome 1 est paru « La vieillesse dans les sociétés antiques ». On est en plein dans notre sujet. La Grèce et Rome, ce sont des études rassemblées par Béatrice Bacouche et qui ont été publiées en 2003 aux presses universitaires de Montpellier. Je rappelle que Concordance des temps est diffusée deux fois, désormais le samedi de 10h à 11h et le dimanche de 16h30 à 17h30. Et les internautes, ils commencent à le savoir, peuvent également écouter l'émission sur le site de France Culture pendant une semaine. La semaine prochaine, je recevrai Joël Cornette à propos de certaines déclarations un peu surprenantes de Monsieur Lelay, le président de TF1, sur la manière dont la France aurait traité la Bretagne. Mais nous parlerons de la Bretagne et du moment où elle a rejoint le Royaume de France. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet avec la collaboration d'Agnès Chauveau et avec Patrick Molinier, Philippe Palares, Meryl Moneghetti et pour les archivina, Florence D'Artois.